Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons peu, parlons bien. Ici, nous partageons sans tabou notre expérience en tant que chrétiens dans notre société actuelle. Qu'il s'agisse des hauts, des bas, des joies, des peines, des échecs ou des victoires, ce podcast a pour objectif d'échanger, de partager ce que les chrétiens vivent au quotidien de nos jours. Aujourd'hui, nous recevons Liliane, qui va partager son expérience en tant que mère célibataire qui veut suivre Jésus. Liliane est la maman d'un garçon nommé Ethan, 12 ans, et va nous raconter son parcours semé d'embûches et la façon dont Dieu a toujours été à ses côtés. Bonne écoute.
Bonjour Liliane.
Bonjour Violette.
Merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci à toi de m'inviter.
Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es ?
Alors, je m'appelle Liliane, une jeune femme de 36 ans, qui habite en région parisienne, qui essaye d'impacter un peu le monde autour d'elle. Voilà.
Ok. Et est-ce que tu peux me raconter l'histoire de ta conversion, donc au moment où tu as entendu parler de Dieu, jusqu'au moment où tu as décidé de donner ta vie à Dieu?
Ok. Alors, c'est un peu long, donc voilà.
C'est parfait.
Donc, j'ai toujours entendu parler de Dieu, je pense, en tant que noire, que l'on soit africain ou venant des Caraïbes ou afro-américain, on entend parler de Dieu depuis qu'on est tout petit. Mais après, c'est quelque chose de très abstrait. C'est quelque chose qui ne nous parle pas. Du moins, c'est quelqu'un qui nous parle pas du tout. Donc, depuis très petite, j'ai toujours entendu mes parents me dire qu'il faut prier pour chaque chose, avant de manger, avant d'aller dormir, enfin blabla. Donc, je le faisais un peu comme un rituel sans vraiment comprendre ce qu'il en était. Et lorsque j'ai eu 10 ans, ma mère en fait s'est convertie à l'adventisme. Donc elle nous a forcé du coup à aller à l'église avec elle. Et c'est vrai qu'au début c'était pas simple parce que j'avais des activités, notamment de la danse. Et mais souvent, généralement, surtout dans l'ancienne génération, quand les gens se convertissent, c'est vraiment à fond, ils sont zélés à fond. Donc, il a fallu arrêter beaucoup de choses. Donc, moi, par exemple, j'avais des prestations le samedi. Et là, tout d'un coup, sans comprendre pourquoi, je n'en avais plus. Par exemple, lorsque j'avais école le samedi, et moi, j'étais contente parce que j'allais voir mes copines et tout. Le samedi, c'était un peu plus relâche. Et là, on me dit, non, c'est sabbat. Sauf que je ne savais même pas ce que c'était. Pendant 10 ans de ma vie, je n'avais jamais entendu ce terme-là. Donc, c'était quelque chose d'assez compliqué. Mais bon, voilà, toi-même, tu sais, parent noir, il te dit, enfant noir, tu fais. Tu ne cherches pas, c'est compliqué. Tu vis ta frustration, mais à l'intérieur, très enfouie. Et si tu veux, cette frustration a continué. Mais en fait, je ne voulais pas l'écouter parce qu'en même temps, je n'avais pas trop le droit. Donc, il fallait que j'aille à l'école, donc explo, blablabla. Enfin, pardon, à l'église, donc faire explo et tout et tout. Et si tu veux, bon, bah, je ne prenais pas plaisir à aller à l'église jusqu'au jour où on nous raconte l'histoire d'Ellen White. Et je pense que j'avais environ 16 ans. Ouais, c'est ça, j'avais environ 16 ans. Et ça m'avait touchée parce que je me suis dit, donc en fait, Dieu il appelle aussi des personnes qui sont jeunes à faire son travail. Donc je ne voyais plus du tout la foi comme quelque chose qui appartient aux vieilles personnes. Même si ma mère n'était pas vieille à l'époque, je ne sais même pas pourquoi j'imaginais que c'était pour les vieilles personnes, mais voilà. Donc du coup, ça m'a interpellée. Donc j'ai continué à aller à l'église, mais cette fois-ci pour moi, mais pour découvrir ce que Dieu avait pour moi. Après, franchement, j'avais pas trop envie de m'engager parce que pour moi, me faire baptiser, c'était signe de trop d'interdits. C'est-à-dire que je pouvais pas boire ce que je voulais, je pouvais pas manger ce que je voulais, je pouvais pas. Et donc, je préférais. J'allais à l'église, hein, j'étais là, j'ai même commencé à chanter à la chorale et tout, donc j'étais là. L'enfant de l'église, on va dire, mais j'arrivais pas à m'impliquer parce que pour moi c'était trop d'interdits. Donc j'ai continué comme ça pendant presque 10 ans jusqu'au jour où à l'église je rencontre le père de mon fils. Donc je me dis, bon, bah, comme on se rencontre à l'église, bah, forcément, c'est que c'est mon mari. Donc, voilà, tu fais tout ce que tu dois faire d'après toi, ou moins d'après moi à l'époque. Et donc, on sort ensemble pendant, je pense, 3 ans avant que je découvre que je suis enceinte. Et j'étais à la fac. Et j'étais chez mes parents. Donc, maintenant, comment tu vas pour dire à tes parents que t'es enceinte, que si, que ça. Donc, ça a été un grand... ça a été un grand bouleversement dans ma vie. Et notamment, ma grossesse s'est très bien passée au niveau physique. Mais au niveau psychologique, c'était super compliqué. Parce que mes parents ne me parlaient pas. Et parce que le père de mon fils, du coup, il est parti. Tout simplement. Donc, soi-disant, il m'aimait. Mais bon, bref, ça c'est... une autre story. Mais voilà, donc du coup tu te retrouves seule et c'est vraiment là que j'ai commencé à me dire bah attends, on m'a parlé d'un Dieu qui est toujours là, maintenant j'aimerais savoir qui il est, j'aimerais comprendre comment ça se passe. Et au départ je faisais ça un peu par dépit parce que du coup j'avais plus personne, donc il restait plus que Dieu, donc je le faisais un peu par dépit. Et plus j'avançais dans ma grossesse, plus je sentais mon fils bouger et plus Dieu le Père m'apparaissait comme un être tellement bienveillant qu'en fait, je me suis dit, le Père fouettard, c'est ça, fouettard que je me suis imaginé, n'existe pas en fait. Il n'existe pas du tout parce que même si c'est compliqué de nous aimer en tant qu'être humain, mais il nous aime quand même. Donc, en fait, j'ai fait ce cheminement. Mais bon, voilà, enceinte, à l'église, tu ne peux pas faire beaucoup de choses. Donc, j'allais malgré tout à l'église. J'entendais les critiques, je voyais les regards. Mais ça ne... c'est pas que ça ne me faisait rien. Mais c'est comme si Dieu avait permis de mettre un sorte de bouclier entre eux et moi pour que je ne sente pas cette pression. Parce que comme je te disais, je chantais, même si je n'étais pas baptisée, je chantais, participais à des concerts, tout et tout. Je commençais même à m'occuper des enfants, tu vois, des trucs comme ça. Donc, j'étais vraiment impliquée dans la vie de l'église. Et donc, je chemine avec Dieu pendant ma grossesse. Et c'est lorsque j'ai accouché et qu'on a mis mon fils, en fait, sur moi, que là, j'ai pas pu reculer. Je me suis dit, non, mais en fait, Seigneur, t'es vraiment Dieu. En fait, t'es vraiment grand et je veux te suivre. Et c'est vraiment à partir de là. Donc, ouais, j'ai fait des études bibliques et quelques temps plus tard, je me suis faite baptiser. Voilà.
Waouh. Ah non, c'est vraiment un super beau témoignage. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à l'église.
Oui.
Tu as dit que c'était compliqué, etc. Tu ne peux pas faire grand-chose et que tu entendais les critiques, etc. L'enfant est né, tu t'es fait baptiser. Comment ça s'est passé ensuite à l'église?
Ah, c'était pas simple. C'était pas simple parce que l'être humain, on a besoin de mettre les gens dans des cases. Je pense que... dans notre désordre, on aime l'ordre. Donc, en fait, c'est compliqué. Parce que du coup, le verset qui parle des veuves et des orphelins ne s'appliquait pas vraiment à moi. Donc, s'occuper de moi, vraiment, c'est un peu compliqué. Je ne suis pas mariée. Mais en même temps, je suis jeune fille parce que là, j'ai 24 ans. Donc, je suis jeune fille qu'il faut encadrer. Mais en même temps, encadrer de quoi? Parce qu'elle a déjà commis le plus gros truc. Et c'est ça qui est un peu compliqué parce qu'en fait, c'est le péché qui est visible. C'est vraiment le péché visible, celui-là. Non pas que mon fils ait un péché, mais c'est vraiment... plus il grandissait, plus il disait, non mais en fait, elle a vraiment fait, quoi. Donc, c'est compliqué. Donc, par exemple, je me souviens très bien d'un jour, alors que j'étais à l'école du sabbat, donc c'est un ancien... Je ne sais pas si pour les femmes, on dit toujours ancien. Oui, on dit ancien ou ancienne. Et elle était en train de conduire l'étude biblique. Et elle parlait de la faute de David par rapport à Bathsheba. Je ne peux pas oublier. Parce qu'elle disait, du coup, on le sait tous, le premier enfant qu'il a eu et tout est mort. Et forcément, il y a eu des conséquences, même au niveau psychologique, pour lui comme pour ce qui est devenu sa femme par la suite et tout. Et donc, elle dit ça et elle se retourne vers moi. Elle dit, n'est-ce pas, Liliane? tu vois, c'est pas si, c'est, tu comprends que le péché a des conséquences, hein, malheureusement. On est 15 dans la classe. Et là, je regarde la dame, je dis, je l'insulte, ou je ferme ma bouche, ou je prie. Et j'ai pris, j'ai prié. J'ai pris le parti de prier. Et je suis allée la voir à la fin pour lui dire, voilà, j'ai beaucoup de respect pour vous. Par contre, des trucs comme ça, faut pas faire parce que moi encore, je peux comprendre parce que ça fait un moment que je suis dans l'église. Mais imaginez qu'il y a quelqu'un qui vient pour une première fois, qui est enceinte et que sa situation n'est pas réglée avec beaucoup de guillemets. C'est quelque chose qui pourrait être très, très mal perçu. Donc, en fait... Elle a compris, elle n'a jamais demandé pardon, mais elle a compris quand même, si on veut. Donc, tout ça pour dire que c'est super, enfin, ça a été super compliqué. Mais encore une fois, j'ai vu la main de Dieu se manifester parce que malgré les critiques, parce que je les entendais, hein, des fois, les gens ne font pas attention, tu passes et t'entends. Malgré ça, eh ben, moi, je montais en fait dans ma foi. Ma foi grandissait, donc en fait, j'avais pas, si tu veux, j'ai pas besoin qu'on me dise, ah, mais elle est pas mariée. Si, je suis mariée et mon mari, c'est Christ. Donc, tu peux dire ce que tu veux, c'est pas, ça m'intéresse pas. Parce que, oui, je suis passée par des moments difficiles, parce que comme je te disais, j'étais à la fac. Et j'habitais à Nantes, j'habitais pas en Île-de-France. Et donc, je finis mes études. Et bah, j'ai pas de boulot. Et t'as un enfant. Donc tu vis avec le RSA ou tu fais des petits boulots par-ci, par-là. Et donc c'était compliqué. Et ben, j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours dit à Dieu. Enfin, moi je suis quelqu'un, j'aime bien m'habiller, me coiffer, tout ça. Et je disais toujours à Dieu, c'est toi mon épouse, à toi de me donner l'argent pour que je puisse m'acheter de belles choses, pour que je puisse acheter de belles choses à Ethan, qui est mon fils. Et donc, il a toujours permis. Et mes factures étaient payées. Amen. Donc, en fait, quand les personnes venaient me parler pour me critiquer, ça ne m'intéressait pas. Wow. Parce que moi, je savais ce que je vivais dans le secret avec, avec Christ. Donc, ça ne m'intéressait pas.
Ok. Et est-ce que tu pourrais donner des conseils à des gens qui se retrouvent dans une situation comme ça? Donc on est dans une église et puis il y a une jeune qui tombe enceinte et elle n'est pas mariée. Elle tombe enceinte de quelqu'un qui n'est pas marié. Comment il faut réagir? Parce que là, clairement, ton expérience, elle est assez douloureuse, même si tu as réussi à t'accrocher à Dieu. Mais quel conseil tu pourrais donner à ces gens? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour cette personne, au final?
Alors, pour ceux qui ne sont pas proches, parce qu'on est dans une église, hein, donc c'est une micro-société, qu'on le veuille ou non, on est au courant de ce qui se passe. Donc, pour ceux qui sont loin de cette personne, qui n'ont pas d'attache, vraiment demander à Dieu de nous donner un regard rempli d'amour. Pas de pitié. Surtout pas de pitié. Surtout pas être hautain. Mais vraiment rempli d'amour. Rempli d'amour. Parce que c'est ce que la personne va retenir. Pour ceux qui sont proches, qui entourent cette femme, par exemple, tu as une amie qui malheureusement tombe enceinte, la soutenir dans la prière, mais aussi lui dire les choses. C'est-à-dire, des fois, on sait que la personne, elle a mal fait. Mais comme on ne veut pas blesser la personne, on ne veut pas perdre notre amie, donc on ne dit pas. Mais tu dis pas à cette personne-là, mais tu as une autre personne de confiance à qui peut-être tu vas dire. Et cette personne de confiance a une autre personne de confiance. Et toi, à la base, tu as juste parlé pour te vider, pour dire, voilà, ma copine, ce qu'elle fait, ça va pas. Toi, à la base, tu as juste parlé comme ça. Mais quand ça va revenir aux oreilles de ta copine, ça sera autre chose. Donc, oui, ok, c'est pas facile, c'est délicat. Mais vraiment demander à Dieu de t'aider, si c'est ton ami, de savoir comment lui parler et l'aider. Moi, je sais que j'en ai pas parlé, mais j'ai une amie dans l'église qui m'a énormément aidée. Qui n'a pas du tout apprécié quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Sa réaction, pour moi, était quand même violente sur le coup, parce que je me suis dit, c'est ma pote. Donc, elle va dire, oh, ok, bon, ça sera notre bébé. Non, pas du tout. Mais rien à voir. Elle m'a vraiment dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mais ça n'empêche pas qu'elle était toujours là. Je pouvais appeler à 2h du matin. Elle était là. Quand j'avais des envies, je l'ai appelée et donc elle m'a aidée à porter l'armoire. Je rigole parce que je suis allée acheter l'armoire, juste l'anecdote, je suis allée acheter l'armoire pour mon fils. C'était le dernier achat que j'ai fait. Ah oui, parce que j'ai été virée de chez mes parents. Donc, il a fallu que j'ai un appartement.
Tu l'as pas dit.
Oui, j'ai pas dit, pardon. Mais du coup, j'ai acheté l'armoire. Et donc, moi, je suis enceinte de 8 mois. Et donc, on va chez IKEA. Je sais pas si on peut dire les marques. Et nous voilà, elle est toute petite, elle fait 1m60 et tout. Pas très musclée et tout. Nous voilà toutes les deux en train d'essayer de mettre l'armoire dans le caddie. Et aujourd'hui on en rigole, mais c'est quelque chose qui m'a énormément touchée parce que elle n'était pas d'accord avec le chemin que j'empruntais, mais elle m'a quand même soutenue, tout comme Dieu, il n'était pas d'accord avec le chemin que je prenais, mais il m'a quand même soutenue. Donc le conseil que j'ai à donner à ceux que tu connais qui se retrouvent dans cette situation là Ok, tu leur dis, bon là, ce que tu fais, ça va pas, mais il faut soutenir, surtout pas se détourner, surtout pas de regard de pitié, de colère, parce que colère, ça sert à rien, c'est pas à toi qu'elle a fait quelque chose, c'est à elle-même.
Ça, c'est clair.
Ouais. Donc, voilà, ce serait ça mon conseil.
D'accord. Et à une jeune femme à qui ça arrive, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil?
De dire très tôt à ne serait-ce à sa maman ce qui lui arrive. C'est pas grave si ta maman te regarde avec un regard de déception ou colère, ou c'est pas grave, c'est normal. Les enfants, les parents, quand ils ont des enfants, ils projettent en fait sur leurs enfants, ils projettent des choses, c'est normal. Mais sur cette terre, il n'y a personne qui t'aime plus que ta maman, et il faut vraiment aller le dire si t'as une maman, il y en a qui n'en ont pas, mais aller voir en tout cas quelqu'un de confiance, quelqu'un que tu aimes vraiment, lui en parler et être sincère, être sincère dans ce que tu vis et ouais, t'accrocher aussi à Dieu, parce que ça va être j'ai le mot en anglais, roller coaster,
des montagnes russes
donc voilà.
D'accord, ok. Je te cache pas que ça me touche ce que tu dis, parce que c'est vraiment, c'est profond, et puis le fait que t'es pas lâché Dieu, parce que là il y avait tout, vraiment il y avait tout pour que tu lâches Dieu et que tu abandonnes et t'as pas lâché l'affaire, et je trouve ça super beau et super encourageant. Et donc ton fils dans tout ça, comment ça s'est passé, comment il vit la situation, comment t'as pu gérer aussi la situation, et d'ailleurs il a quel âge ?
Il a 12 ans.
Ok.
Alors comment j'ai géré ou comment je gère la situation, je vais te dire, je sais pas. Non, faut être sincère, parce qu'un enfant, c'est compliqué. Mais c'est vrai que, comme je t'ai dit, quand on l'a posé sur moi, ben, en fait, tu sens que tu as une responsabilité. Et donc, ben, tu peux pas le refaire re-rentrer, tu peux pas machin. Donc, il faut que tu avances. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Et j'ai remarqué, par exemple, que les enfants n'ont pas besoin de beaucoup, beaucoup de choses. Ils ont vraiment besoin d'être entourés, de ressentir l'amour. Et encore une autre anecdote. En Afrique, au Congo surtout, on n'est pas très expressif. On n'exprime pas beaucoup l'affection. Et donc... pour donner un exemple, quand j'étais plus jeune, je disais à ma maman, bah, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. Et elle me disait, bah oui, tu as raison, je ne t'aime pas. C'était pour dire que pour elle, c'est logique. Comme c'est ma maman, elle m'aime. Donc, elle ne comprend pas pourquoi je me pose la question. Mais ça, tu le comprends plus tard. Donc, moi, j'en ai un tout petit peu souffert. Ça ne m'a pas traumatisée. Mais je me suis dit, bon, bah, je vais montrer à mon fils que je l'aime. C'est pas évident. Quand tu peux pas donner quelque chose que tu connais pas. Et encore une fois, c'est vraiment en m'approchant de Dieu que j'ai appris de plus en plus. Et donc, j'ai commencé à dire à mon fils, je t'aime. Oh, tu es beau. Je l'appelais l'amour de ma life. Je disais, oui, t'es l'amour de ma life. Tu vois, on n'avait pas beaucoup de choses. Franchement, mon premier appartement, il y avait très, très peu de choses. Mais quand il te parle de ça, peu de souvenirs qu'il en a, on dirait que c'est de la meilleure période pour lui. Ben, mais pourtant, il n'avait pas des jouets que je peux lui offrir aujourd'hui ou des choses comme ça. Mais il y avait l'affection, il y avait l'amour. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à m'en sortir petit à petit. Ce que je lui donnais, il me rendait aussi. Donc, en fait, c'était tous les deux. C'était vraiment, on avait vraiment formé notre cocon, même si son père était présent. Son père, pour lui, il a toujours été présent. Donc, on était quand même dans notre cocon. Et en fait, c'est comme ça qu'on a grandi ensemble, en fait, parce que j'étais quand même une jeune fille, j'avais pas fini mes études, donc j'allais toujours en cours. Mais je peux pas te dire exactement comment j'ai fait, ou des fois on me demande, mais on me dit, ton fils il est bien élevé, comment t'as fait? Moi j'en sais rien, c'est la grâce de Dieu, franchement, ouais. Moi j'en sais rien.
Okay. Et donc tu parlais de tes études, du coup t'as dû continuer tes études pendant ta grossesse?
Ouais,
okay.
Je suis allée passer, enfin j'ai accouché en janvier, je suis allée à la fac jusqu'aux vacances de Noël.
Ok.
Je dormais en cours des fois, j'étais chaos. Mais oui, j'y suis allée parce que, comme je te disais, mes parents m'avaient viré. Donc, ils m'avaient donné une deadline. Et comme quand je les croisais dans la maison, ils me toisaient ou alors ils me regardaient même pas. Donc, j'allais en même temps à la fac pour ne pas les voir. Donc, du coup, j'allais. Et lorsqu'il y a eu les partiels en janvier, moi, j'ai accouché et j'ai repassé mes partiels en septembre pour rattrapage. Donc je me suis arrêtée à la licence parce que après il fallait continuer, enfin il fallait que je trouve surtout un travail. J'ai dû renoncer à l'école de journalisme, malheureusement. Mais Dieu est grand parce qu'après il m'a permis de pouvoir écrire des articles bien plus tard, donc
waouh,
ça va,
il a toujours été avec toi,
grave.
Et est-ce que dans l'église, après tout ça, donc voilà, bon, ça s'est mal passé, etc. Bon, l'enfant est grandi, donc...
Comment on le traite?
Va falloir, oui, lui, et puis toi, enfin, votre famille, quoi, comment ça se passe? Au final, est-ce qu'il y a une acceptation? On se dit, voilà,
non.
C'est...
Non.
Non?
Après, ça dépend, je pense, des personnes. Ça dépend de qui tu es aussi dans l'église. Si, par exemple, tes parents ont des postes, des choses comme ça, les autres ils vont un peu fermer les yeux, mais moi c'était pas mon cas. Ma mère n'avait aucun poste. C'était l'africaine de l'église, entourée de d'antillais, d'haïtiens, tout. Donc voilà, on regardait un peu sur le côté, donc très très mauvaise expérience dans mon église de Nantes. Mais malgré tout on y allait quand même, et je faisais toujours en sorte que mon fils ne se rende pas compte des chouchous qu'il pouvait avoir sur lui. Arrivé ici, les églises sont plus grandes en Île-de-France. Donc déjà, tu peux passer plus inaperçu. Mais ça n'empêche pas que j'ai déjà eu des petites histoires, parce que si par exemple les enfants de couples mariés font des bêtises, c'est forcément la faute de mon fils, parce que c'est lui qui est avec, qui a une mère, qui est issu d'une famille monoparentale. Après, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Et je tiens vraiment à louer le Seigneur, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont vraiment l'amour dans leur cœur. Mais il y a d'autres personnes, je pense, qui savent ce que c'est l'amour en théorie, mais en pratique, surtout quand ça touche leurs enfants, c'est un peu plus compliqué. Et ils ont l'impression que l'état de... Si on peut appeler ça l'état. L'état des parents, ça va aller sur l'enfant. Donc du coup, ils le traitent un peu, tu vois, avec de la distance. Pas tout le temps, mais tu sens quand même.
Ouais, c'est dommage, c'est vraiment dommage au final, mais bon. J'ai une question qui fâche.
Ok.
C'est vrai qu'à l'église, j'entends souvent, faut dire la vérité, on entend souvent, si tu fais un enfant et que t'es pas marié, tu vas jamais retrouver quelqu'un, c'est pas possible, qui va vouloir de toi? C'est des phrases que j'ai beaucoup entendues à l'église. J'aimerais, toi, que tu donnes ton point de vue. Qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que tu répondrais à ce genre de remarques?
Qu'est-ce que je répondrais? C'est faux. C'est complètement faux. Après, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps, mais j'explique pourquoi. C'est pas que tu rencontres personne. C'est que tu rencontres des gens. Mais le problème, c'est qu'il faut que la personne t'aime, toi et l'enfant. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, tu peux rencontrer quelqu'un qui te correspondrait toi seul. Tu n'aurais pas d'enfant, ça match. C'est parfait. Mais avec ton enfant, c'est un peu plus compliqué. Non pas qu'il ne l'aime pas, mais il voit plus son enfant comme un dérangement, surtout si cet homme-là n'a pas d'enfant. Donc, il ne sait pas du tout, en fait, ce que tu vis. Tu vas lui dire, en fait, je ne peux pas sortir en semaine. alors que tu es une grande fille. Mm-hmm. Normalement, tu peux sortir en semaine, mais là, tu lui dis, non, je ne peux pas parce qu'il n'y a personne pour garder mon enfant. Mm. Bon, voilà, ce n'est pas tout le monde qui est capable d'intégrer ça et de gérer ça. Mm-hmm. Maintenant, aller jusqu'au point de dire que tu vas trouver personne, je pense que c'est pour faire peur. Mm-hmm. Et ça réussit des fois, puisque du coup, il y a des femmes, et j'ai fait partie de ces jeunes femmes-là. Après avoir accouché, je m'étais dit, bon, c'est bon, moi, je suis que maman, je trouverai jamais quelqu'un d'autre. C'est complètement faux. Mm-hmm. Et c'est quand toi, tu arrives à te reprendre, à te dire, ben, en fait, je suis une femme, je plais, je suis pas moche, bah ouais, tu peux trouver quelqu'un. Et vraiment, fais des rencontres. Après, je dis pas, va partout, il y a une pancarte, je suis célib et tout, non, c'est pas ce que je dis. Mais c'est vraiment, bah, vis ta vie de célibataire. Mais maintenant, tu auras une vie de célibataire avec un enfant. Donc forcément, partout où tu iras, tu as la responsabilité de ton enfant dans ta tête. Mais je vais juste préciser quelque chose. Moi, j'ai, enfin, ma meilleure vie, je l'ai vécue après la naissance de mon fils. Ah, j'ai fait grave des voyages. Ah si, mais j'ai fait grave des voyages. Mm-hmm. Je suis allée jusqu'à Nouméa, Japon. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Je suis allée en Afrique plusieurs fois. Enfin, tu vis des trucs. Tu vis les trucs autrement. Mm-hmm. Moi, j'ai vécu ma meilleure vie. Parce que, bon, après, j'avais des parents qui pouvaient garder mon enfant. Donc, c'était facile pour moi de pouvoir aller en voyage. Mais en fait, dès que tu comprends que tu es une jeune femme, si tu n'es plus avec le père de ton enfant, oui, continue ta vie.
Et puis Dieu est un Dieu miséricordieux. Mm-hmm. C'est pas Dieu qui va nous condamner.
C'est ça.
À rester exactement. Comme ça, malheureuse, parce que tu as fait une erreur au final. Exactement. Il n'y a pas d'échelle, des erreurs, en tout cas aux yeux de Dieu.
Mais c'est ça en fait, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, le péché, lui, ce péché-là, il est visible. En fait, non seulement il est visible, mais il n'est pas visible que pour un temps. C'est-à-dire que mon enfant, aujourd'hui, il a 12 ans. Mm. Donc, si je ne dis pas que je suis veuve, forcément, les gens ils vont faire la corrélation. Ils vont dire, donc elle a eu un enfant hors mariage. Mm. Donc, on est encore dans le jugement parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas cacher. Quand tu mens, tu peux cacher. Mm. Quand tu voles, tu peux cacher. Quand tu tues, des fois même, tu arrives à cacher. Mm. Mais ça, tu ne peux pas, à part si tu l'abandonnes. Mm. Donc, non. Franchement, oui, Dieu est miséricordieux. Oui. C'est pas quelque chose qui... Il va pas, genre, mettre ton enfant là comme si c'est un boulet et c'est ta punition. C'est triste. Mais il y a des femmes qui voient ça comme ça.
C'est dommage. Après, c'est ce qu'on nous dit depuis mm-hmm. qu'on est toute petite, donc forcément...
Oui, d'accord. Moi aussi, on m'a dit ça. Mais à un moment donné, quand je vois mon bébé et qu'il a rien demandé, comment je peux voir ça comme si c'est une punition? Non. Non, non, c'est pas du tout une punition. Après, c'est la conséquence de mes actes. Il n'y a que Marie qui a eu l'enfant sans rien faire. C'est la conséquence de mes actes. Donc, c'est sûr que voilà, il faut aussi être prêt à assumer ça. Quand tu prends la décision d'avoir des relations sexuelles à la base, il faut aussi être prêt à assumer ce qui va derrière. Et je parle pour la femme comme pour l'homme et surtout pour l'homme. Parce qu'on part du principe que comme je suis enceinte, donc forcément, moi, je ne peux pas fuir la situation. Mais par contre, les hommes, eux, ils arrivent. Non, non. On était deux à faire.
On est beaucoup plus
intelligents. Donc, en fait, on va tous les deux. Et je l'ai vu aussi par rapport aux gens de l'église. C'est-à-dire, ils ne me traitaient pas de la même façon qu'ils traitaient le père de mon enfant. Wow. Alors qu'on était deux.
Ok. Donc, il n'a pas du tout eu le même traitement, ni les mêmes...
Oh, pas du tout. Oh, pas du tout, du tout, du tout. Rien à voir.
Est-ce que tu as des exemples par...
Ah oui. Par exemple, moi, quand je le portais ou que j'allais seule à l'église avec mon fils, on ne me disait jamais qu'il était beau, par exemple.
Ok.
Et pourtant, mon fils était un beau petit bébé. C'est pas parce que c'est mon fils, mais c'était un beau petit bébé. Mais quand c'était son père qui le portait... Oh là là, mais franchement, un beau petit garçon, félicitations. Moi, à l'église, on ne m'a jamais félicité.
Waouh.
C'est quand même moi qui ai accouché.
C'est vrai qu'on ne pense pas à ça, mais ouais.
Y a une c'est blessant.
C'est dur.
C'est blessant. Tu te sens encore plus la coupable. Mm-hmm. Alors que, ouais, vous étiez deux. C'est vraiment 50-50 la responsabilité. Mm-hmm. Par exemple, nous, on va nous dire, oui, ta vie, elle est gâchée et tout, et tout, et tout. Ne fais pas d'enfant avant le mariage parce que ta vie, elle est gâchée. À un homme, on va lui dire, c'est pas grave, tu t'es trompée, tu peux toujours avoir une autre femme et hein. ça va aller, tu feras ta vie de famille. Et nous, on nous dit, non, t'es bloquée avec l'enfant.
Ouais, donc il y a un travail aussi à faire sur ça, par rapport à la façon dont on réagit par rapport à la femme et par rapport
surtout à l'église, parce que ça vexe plus. Parce que tu te dis, c'est des personnes quand même qui sont censées connaître Dieu.
Vraiment, c'est très profond ce que tu dis. Bah, merci beaucoup.
De rien.
Est-ce que tu pourrais partager un verset biblique qui t'a aidé?
Ésaïe 43, versets 3 et 4. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Je répète encore, parce que tu es honoré et que je t'aime.
Amen. Très beau verset. Ben, merci beaucoup, Liliane.
De rien.
Nous voici arrivés à la fin de ce podcast. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou alors à le partager, en parler autour de vous. Si vous avez des questions, des suggestions ou autres, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante parlonspeuparlonsbienpodcast@gmail.com sans aucun espace. C'était Violette, à bientôt pour un nouveau podcast.